Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Un oui partagé, les femmes de diacre témoignent, c'est dans un instant dans ce Vivante Église. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder une dimension, celle du diaconat, dont on parle peu, la place et l'expérience des femmes de diacre autour de ce oui vécu en couple. Le diaconat peut être vécu dans le célibat ou dans le mariage. Et lorsque l'homme appelé est marié, son cheminement engage aussi son épouse. Temps de discernement, temps de formation et puis le temps de la mission. J'ai la joie d'accueillir quatre femmes qui ont accepté de partager leur expérience. Je salue au micro Madame Hélène Gazot.
Bonjour Nathalie.
À vos côtés Claire Rodier.
Bonjour.
À mes côtés Emmanuel Combre.
Bonjour.
Et Christine de Persin.
Bonjour.
Alors, merci à toutes les quatre. Pour commencer, revenons peut-être au tout début, au moment où tout a commencé pour chacune d'entre vous, différentes générations autour de cette table, d'où la richesse aussi de cette diversité de générations et puis diversité et expérience, expérience aussi de vie et expérience de mission surtout. J'aimerais poser la même question à chacune d'entre vous pour commencer. Quand vos maris vous ont pour la première fois parlé du diaconat, comment avez-vous réagi? Peut-être avec Madame Hélène Gazot, vous vous rappelez de ce moment où monsieur, votre époux, Alain Gazot, décédé en octobre 2007-2008, vous a parlé peut-être de ce diaconat?
Oui, je m'en souviens effectivement. Comme on dit, c'était au siècle dernier, puisque Alain a été ordonné en 1999. Et il a été appelé directement par Monseigneur Coligny, qui était l'archevêque de Toulouse à l'époque. Il a reçu un courrier et il tenait énormément, vous en doutez, à ce courrier. Alors c'est vrai que bon, il y avait eu quelques prémices, on va dire, à cet appel, mais c'est vraiment le moment où il a reçu la lettre de Monseigneur Coligny qui a été, on peut dire, le premier, vraiment, la première avancée. Et donc, bien sûr, on a lu ensemble cette lettre. Et voilà, ça a été des moments de discussion aussi avec les enfants, puisque les enfants étaient déjà un peu grands, et puis de partage aussi avec le prêtre de la paroisse et tout ça. Mais c'est vrai qu'on a pu cheminer ensemble, je crois, jusqu'à l'ordination et après.
Alors vous pourrez, et vous restez avec moi du début, avec nous, du début à la fin, puisque vous n'avez pas eu, avec votre époux, le temps du discernement, mais vous en parlerez au cours de cette émission, ni le temps de la formation. La formation, certes, vous toutes ici avez été formées aux côtés de vos époux, mais je vais peut-être demander à l'une d'entre vous, peut-être Emmanuel, de nous dire un petit peu ce moment peut-être clé dans votre expérience de femme, d'épouse, où il y a eu ce début de l'appel et certainement aussi le début d'un temps aussi de discernement en famille. Racontez-nous.
Alors, l'appel au diaconat a commencé très tôt. Le premier appel s'est fait au tout début de notre mariage, mais il m'a fallu vraiment beaucoup de temps, et à mon mari aussi, pour accepter justement cet appel. Donc on venait d'être mariés, ça faisait à peu près 2-3 mois qu'on était mariés, que déjà on nous parlait du diaconat. Et gentiment, j'ai dit que non, ce n'était pas pour nous aujourd'hui, qu'il fallait construire notre famille et qu'on verrait dans 10 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, 10 ans après, c'est Hervé Guignard qui est venu à la maison pour d'autres raisons et qui nous en a reparlé. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la formation.
Donc on entend 10 ans donc, de maturité, de discernement pour enfin arriver à ce oui, car on parle bien d'un oui en couple pour vous toutes, Christine
oui,
de Persin.
Tout à fait.
Vous vous rappelez, est-ce qu'on peut réagir et revenir un peu sur la genèse aussi de l'appel?
Oui, alors nous, Patrick a été appelé plusieurs fois sans vraiment réagir. Et puis, on a été appelé ensuite en couple par Colette et Pierre Cormier. Pour aller à une journée portes ouvertes au ICS à Liège. Et on a eu la grande surprise d'y retrouver le frère aîné de Patrick, Arnaud et sa femme, Marie-Madeleine, et qui étaient déjà en première année de discernement. Et donc, nous, on est rentrés en discernement l'année suivante. Et du coup, on a fait notre discernement et la formation avec à chaque fois une année de décalage, mais une vraie fraternité d'être les deux frères ensemble et les deux belles-sœurs ensemble.
Et pour vous, Claire Rodier, ici, donc votre mari a été ordonné diacre, je n'ai pas donné l'année où vos maris avaient été ordonnés diacre, pour vous c'était en 2019, tout comme vous, Christine, 6 ans voire 7 ans après, vous rappelez ce moment précis de l'appel, parce que c'est l'époux qui est en mission, mais il faut l'aval, le oui de l'épouse.
Oui, en effet.
Alors, racontez-nous.
Alors, c'était à Saint-Cernin, c'était... Et à la fin d'une messe, Philippe, depuis quelque temps, servait la messe comme grand clerc à Saint-Cernin, à la demande du père Lisier de Bardis. Et un jour, il servait la messe au père Jean Gaillard, qui s'occupait du diaconat à l'époque. Et dans la sacristie, le père Jean Gaillard lui a demandé s'il avait déjà réfléchi au diaconat. Bon, il se trouve que c'était déjà le cas, c'était déjà dans ses idées. Et voilà, ça nous a lancé sur le chemin.
Il avait partagé ses idées avec vous ?
Oui,
c'était
oui,
gardé
oui.
Un peu dans le
non,
secret
oui.
De son cœur ?
Il en avait déjà parlé un petit peu, donc je n'ai pas été surprise, pas du tout.
C'était une évidence pour vous ?
Un peu, oui.
Alors, mesdames, on parle de cet appel, cette vocation, et on vous entend aussi parler de discernement à toutes les quatre, et de formation. La formation est d'une période de 6 ans, je crois. Vous avez chacune suivi la formation. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode où on imagine bien qu'il faut une organisation pour la vie du quotidien et cette vie de famille ? J'ai bien envie de vous faire réagir, vous, parce que vous êtes... la plus jeune, hein, 2 ans et demi d'ordination pour votre époux. Revenez un peu sur ce temps des 6 ans de formation, avec le temps aussi du discernement.
Alors, pour le côté familial, la formation a été plus facile que le côté discernement, parce que pendant la formation, nos enfants étaient gardés. Donc nos enfants étaient gardés entre enfants de futurs diacres. Il y avait une organisation interne, donc mon fils aîné aussi l'a fait. Et donc c'est vrai que ça nous permettait eux de vivre quelque chose de fraternel entre eux, de s'organiser, et puis aussi nous de pouvoir faire notre formation sans penser vraiment à l'intendance de la gestion de nos enfants. Donc c'est vrai que ce moment-là a été très riche aussi pour nos enfants, et je pense que ça les a marqués. Et il y a quand même des liens entre certains enfants qui restent encore présents aujourd'hui.
Et pour vous ?
Alors, pour nous, le temps de discernement et de formation, nos enfants, notre dernier était adolescent. Donc, pour lui, ça a été, en gros, un grand moment de liberté. Donc, il a trouvé ça très bien que pendant 2 ans, on soit absent un samedi par mois. Et ensuite, pendant 6 ans, on soit absent un week-end presque par mois. L'avantage, c'est que la formation à l'époque se faisait à la maison diocésaine et que on pouvait nous y aller à pied. Donc c'est vraiment notre quartier. Donc on pouvait rentrer chez nous et le soir.
Quels sont les points peut-être un peu sombres, permettez-moi, mais 2 ans de discernement, 6 ans de formation. Au total, si on compte bien 6 plus 2, ça fait 8 ans. Donc, il peut y avoir aussi des familles un peu avec des enfants en bas âge. C'était votre cas.
C'était votre cas.
Oui, alors on s'organise comment ?
Alors,
vous avez donné cette organisation, hein, mais ce temps aussi d'acceptation, de discernement, ce n'était pas des adolescents
non,
à l'époque.
Non, c'était pas des adolescents. Le petit dernier, quand on a commencé le discernement, il avait 1 an. Donc vraiment, c'est loin d'être adolescent.
Il n'était pas encore concerné.
Pas du tout concerné. D'ailleurs, c'est le fils, c'est un fils de quelqu'un qui était avec nous, qui était en discernement avec nous, qui a gardé notre petit, et que donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé dès tout petit. Et en fait, ils ont grandi avec. Donc, en fait, ils ont appris à vivre avec, justement, avec mes parents, sont engagés dans l'église. Il y a des temps où ils sont avec nous et il y a des temps où ils sont au service. Et c'est devenu leur quotidien.
Ah, donc on est dans quelque chose de naturel.
Oui, hein, quelque chose de naturel.
Cette dynamique. Et pour vous, donc, ça s'est passé comment? Voilà, des grands enfants aujourd'hui, oui. Entre 20 et 27 ans, 5 enfants. Oui. Certains étaient adolescents à l'époque de la formation.
Oui, mon aîné avait 14 ans.
Alors, comment les adolescents ont vécu et comment votre adolescent a vécu ces 8 ans, quelque part, un peu, où les parents partent en formation pour un service futur de mission, mission d'église? Racontez-nous.
Eh ben, l'époque du discernement était un petit peu longue et un peu dure à gérer pour eux. Oui, il fallait les caser un peu partout, chez les parents, les beaux-parents. Et ils se doutaient de quelque chose, mais ils avaient le droit de rien dire. Donc, c'était pas facile pour tout le monde. Et après la formation, ils étaient gardés donc au Christ-Roi. Il y avait toujours quelqu'un, une babysitter pour les garder. Et au début, ils appréciaient vraiment ce temps qui leur permettait de découvrir, de faire des copains, de vivre un petit peu en marge de nous, mais en même temps pas trop loin. J'avais une de mes filles qui suivait régulièrement les cours. Elle était petite à l'époque, mais elle se régalait, ça l'intéressait beaucoup. Les gens la regardaient bizarrement, mais... Et puis peu à peu, quand ils ont grandi, ils sont moins venus. Ils ne venaient plus avec nous, ils restaient à la maison ou ils avaient des activités.
Alors, le droit de rien dire, qu'est-ce que...
C'était pas facile, hein. C'était pas facile à gérer. Et on a des enfants qui ont lâché quelque chose aux copains.
Je me tourne. Hélène Gazo, il faut garder dans ce temps de discernement, de formation, un peu la chose secrète. Hein.
Non seulement pour le discernement, mais pour le premier cycle. En fait, il y a 5 ans, entre le discernement 2 ans et le premier cycle 3 ans, dans lequel les personnes qui viennent, futurs diacres et leur épouse, disent à leurs amis qu'ils vont faire un petit tour. Et qu'ils vont, vous avez compris qu'il y avait des guillemets à faire un petit tour. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est que tant qu'il n'y a pas eu un appel, on va dire, officiel, il y a l'entière liberté. Liberté pour le futur diacre et sa femme de dire on attend ou on préfère reculer un peu le moment ou on a besoin de réflexion encore ou on va prendre peut-être un autre chemin. Et liberté aussi pour ce qu'on appelle le conseil diaconal de dire à peut-être, de donner un conseil justement par rapport à l'évolution qu'on voit pendant les 2 années de discernement et les 3 années du premier cycle. Prenez un peu plus de temps, réfléchissez davantage, marquez un temps de pause, voilà. Et du coup, il faut considérer que cette discrétion est un garant de la liberté.
Une manière de préserver aussi le futur peut-être du candidat dans cette vocation. Et on préserve le candidat, on préserve la famille avec les enfants et la femme. Ouais. Est-ce que certains, dans ce début de chemin, voire la fin du chemin, s'arrêtent et refusent d'aller jusqu'au bout? Est-ce que vous avez eu des cas, vous qui avez de l'expérience, madame Hélène Gazo?
On a eu des cas. Moi, je n'ai pas connu des cas où les candidats avaient été arrêtés, on va dire, par le conseil, mais des personnes, et encore récemment, qui ont demandé une année de pause pour des raisons diverses et variées. Ça peut être un surcroît d'activité professionnelle, ça peut être une réflexion qui est entamée et qui mérite de prendre davantage de temps. Ça peut être aussi, quelquefois, c'est arrivé, une demande de l'évêque, de dire « Écoutez, là, je voudrais vous confier cette mission, mais elle va vous prendre du temps, donc marquez un temps de pause dans la formation, et comme ça, vous serez plus à l'aise quand vous reprendrez la formation, et pour mener à bien ce que je voudrais vous confier.
Ouais. » Alors, car c'est une belle mission aussi pour ces candidats, et au fond, mission du diacre, mais cette mission ne peut se faire sans l'aval aussi des épouses. Il faut le oui. Vous êtes des candidates, vous les avez accompagnées, vous souhaitez réagir, Christine?
Oui, alors, en fait, avant même le discernement, puis à peu près à chaque étape, le futur candidat et son épouse doivent écrire une lettre. Donc, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec l'écrit et ça m'a paru très difficile et j'ai eu l'impression d'écrire tout le temps des lettres à mon évêque. Pour dire qu'on continuait à... En tout cas, les épouses, les femmes, on continuait à être d'accord. Et puis, nos maris ont écrit aussi leurs lettres, qui étaient leurs lettres, qui leur appartenaient. Mais nous, à la fois, moi, ça a été pesant, mais je trouve ça intéressant que vraiment, très souvent, on nous demande de vérifier que tout allait bien et qu'on était sur le bon chemin.
On entend qu'on prend en compte aussi la parole de l'épouse. On vérifie si tout se passe bien en famille.
Voilà, tout
à fait. Ça, c'est la priorité.
Oui.
Et si ça se passe malheureusement avec des contrariétés, des difficultés, il peut y avoir aussi sur le chemin aussi des épreuves de la vie qui font que cette trajectoire va être interrompue pour un temps, voire pour toujours.
Oui, c'est pour ça qu'il y a toujours cette liberté. Et cette liberté de faire une pause ou complètement arrêter. Et puis cette liberté de poursuivre surtout.
Diriez-vous que être femme de diacre, épouse de diacre, je ne sais pas quels sont les termes, vous pouvez me corriger à tout moment, diriez-vous qu'être femme de diacre donne une visibilité particulière à votre couple, et couple et famille?
Alors, notre mari effectivement est ordonné diacre, il a une mission particulière, mais on n'est pas plus spécifique que n'importe qui, on a juste une mission qui nous a été donnée, qui nous a été confiée. Et être...
Alors, vous n'avez pas de lettre de mission
pas du tout.
Jour.
Non, aucune.
Ça peut arriver, Hélène Gazot, que dans un couple, il y ait une lettre de mission particulière pour l'épouse d'un diacre?
Alors, à ma connaissance, pas de lettre de mission particulière, mais que la mission donnée au diacre puisse être conjointe à son épouse, c'est-à-dire que l'épouse rentre aussi dans la mission de son mari. Mais il n'y a pas une mission particulière pour l'épouse et une mission particulière pour le diacre.
Pourquoi est-il si important de suivre, pour toutes ces femmes de diacre, cette formation qui est, permettez-moi, de 6 ans, plus 2 ans de discernement? Si des auditrices et si un couple vous écoute et découvre peut-être un appel futur pour se présenter et devenir un candidat, on peut être un peu effrayé à l'idée de suivre ces 6 ans de formation avec un rythme particulier, tous les mois, un week-end, voire une journée. On réfléchit à deux fois.
On peut être aussi bien apeuré que comme on se prépare à un mariage. Quand on se prépare à un mariage, il peut avoir les fiançailles avant. Tout ce temps de discernement, de formation, c'est en fait nos fiançailles avant l'ordination de notre mari. Et donc oui, il faut du temps, oui, il faut une formation. On a un accompagnement spirituel, on a beaucoup de choses qui sont autour, vraiment qu'on puisse mûrir la formation.
Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement... ce que dit Emmanuel, il y a aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, un groupe d'accompagnement qui est effectivement constitué plutôt à Toulouse sur le second cycle, mais ça dépend des diocèses, et qui justement va aider par des rencontres régulières avec le diacre et son épouse ce cheminement jusqu'à l'ordination. Et lui-même, les personnes qui font partie du groupe d'accompagnement écrivent aussi à la demande de l'évêque pour rendre compte du cheminement qui a eu lieu pendant cet accompagnement.
Voilà. Après, cette formation, elle est passionnante, même pour nous. Alors, vraiment, elle nous a... moi, ça m'a énormément servi, surtout le premier cycle en formation théologique. Ça m'a énormément servi en tant que catéchiste, quand j'étais encore... catéchiste pour les collégiens, mais aussi maintenant où on accompagne des catéchumènes, et cette formation, elle est même la formation pastorale. On ne suit pas toute la formation pastorale de nos maris, mais la formation pastorale, elle est super intéressante pour les épouses, et on en retire énormément de choses.
Et en plus, cerise sur le gâteau, on constitue une fraternité de femmes, d'épouses et de diacres qui est géniale, en fait.
C'est
comme vraiment un bonheur de se connaître tous.
Une deuxième
tous.
Famille.
Un peu, oui. Oui, complètement même. Ouais.
Vous confirmez, toutes ces dames qui sont dans ce plateau de Vivante Église aujourd'hui, c'est cette belle fraternité que vous vivez
complètement.
En Église, au fond. Vous nous direz, il y a le temps de l'appel, le temps du discernement, et puis il y a l'après, l'après-ordination, c'est-à-dire qu'on rentre pleinement au cœur de cette mission, être missionnaire, disciple, on est envoyé en mission, et c'est l'évêque qui envoie en mission. Donc je vous propose, mesdames, de vous retrouver juste après, dans ce Vivante Église, le temps d'une plage musicale. Et merci à toutes les quatre.
Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers, qui s'humilie pour nous, au point de se cacher, dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de
Nathalie Cardon.
Alors c'est un oui en couple, un oui pour la mission, on parle du diaconat et pour les couples mariés, engagés dans l'église, c'est une deuxième partie que je vous invite à suivre avec mesdames ici autour de la table, madame Hélène Gazot, Claire Rodier, Christine de Persin et Emmanuel Combre. Il y a eu ce moment, vous en avez parlé dans cette première partie de Vivante Église, le temps de l'appel, le temps aussi du discernement, le temps aussi de la formation. Et puis, j'ai bien envie de consacrer ce deuxième mouvement de Vivante Église dans l'après-ordination, c'est-à-dire on entre au cœur même de la mission. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour évoquer un peu cette expérience du moment où votre époux est ordonné, il reçoit une mission bien spécifique? Et puis, il doit y répondre en toute liberté, certes, mais il part en mission. Christine Lepersin.
Lors de l'ordination, on apprend les missions qui sont données à nos maris. Eux aussi, quelquefois, les découvrent. Alors, quelquefois, ils ont été reçus un petit peu avant par l'évêque, mais sinon, on les découvre. La première mission est toujours en famille. La deuxième mission, quand les diacres sont encore en activité professionnelle, est au sein de leur entreprise, de leur travail. Aussi bien l'hôpital que... La troisième mission est souvent en paroisse, puis quelquefois ils ont des missions spécifiques. Et ces missions spécifiques sont souvent pour 3 ans et elles peuvent et du coup évoluer tout au long de la vie.
Alors le cas particulier un peu de mon mari et de moi, c'est qu'on est aussi engagé en communauté. On est auprès de Bonne Nouvelle Quermonde avec des familles en précarité. Et cet engagement, il est venu bien avant l'ordination et fait partie de notre couple depuis le tout début. Et donc, cette mission, elle était là et elle est encore là et elle sera encore là jusqu'à la fin de notre vie. Donc, est-ce que l'ordination est en plus ou en moins? Je ne dirais pas qu'elle est en plus ou en moins, elle est là. Elle nous a été donnée par les plus pauvres, pour le coup. C'est vraiment eux qui nous ont envoyés les premiers. Et cette mission, on peut la vivre en commun, parce que ça fait partie de nous à tout jamais. On est au service du Christ, au service des plus pauvres, et ça, c'est vraiment notre vocation première. Alors, il y a une spécificité de mon mari parce qu'il est diacre. Il l'exprime à sa manière parce qu'il est diacre. Et du coup, on l'exprime, enfin, je l'exprime aussi à ma manière parce que je suis femme tout court.
Mon mari avait reçu deux missions avant l'ordination. Et je me souviens très bien que j'avais dit au vicaire général que non, je ne le suivrais pas là-dedans parce que travailler avec mon mari, c'est pas possible. Il valait mieux éviter. Et il le comprenait très bien d'ailleurs. Et maintenant, il n'a plus qu'une seule mission. Il a laissé tomber l'autre parce que c'était trop prenant.
Est-ce que vous souhaitez réagir, Hélène, vous qui avez certaines responsabilités aussi sur la formation aussi des futurs diacres, vous avez donc beaucoup d'informations à nous partager.
Enfin, juste pour préciser que la mission d'Alain a été là où il était déjà dans l'enseignement catholique.
Tout à fait.
Et cet appel qu'il avait eu, je ne l'ai peut-être pas bien dit tout à l'heure, était aussi lié un peu à sa mission puisqu'il allait devenir directeur diocésain de l'enseignement catholique de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Et donc... C'était dans le cadre de son service d'église de directeur diocésain qu'a eu lieu sa mission, que Mgr Marcus, à l'époque, lui a donné donc sa mission de diacre.
Alors, depuis votre génération à vous, permettez-moi, il y a eu une évolution dans la préparation. Quand on écoute ces dames qui sont aujourd'hui des femmes de diacre, il y a un accompagnement bien spécifique. On ne les laisse pas seules. Vous pouvez peut-être en parler ?
Absolument, oui. Il y a cet accompagnement qui se fait donc par le groupe d'accompagnement que j'évoquais tout à l'heure, et puis par les rencontres. Mais après, effectivement, la mission donnée par l'évêque, et c'est important de dire que le diacre dépend de l'évêque. Même s'il a un service en paroisse, c'est l'évêque qui est... entre guillemets, son patron, pardon de parler comme ça, mais voilà. Et donc du coup, cette mission est fonction des besoins du diocèse, fonction, comme le disait Emmanuel, des engagements déjà pris, bon ça avait été le cas pour Alain, c'est le cas pour Sébastien, de pouvoir vivre en tant que diacre des engagements personnel, professionnel ou de pastoral déjà.
Alors, puisque vous parlez du patron et puis vous parlez aussi de l'évêque et qu'on parle des diacres, comment discerne-t-on ce moment après l'ordination où il y a une mission particulière pour tel ou tel candidat ? C'est en fonction de son activité professionnelle, en fonction peut-être de son charisme, de ses talents, oui. Hélène Gazeau.
Oui, tout à fait. Et je pense aussi en fonction de vœux que peut exprimer aussi le diacre, je pense à quelques diacres qui avaient eu une expérience peut-être un peu limitée, enfin qui avaient découvert par exemple la mission de visiteur de prison et qui ont vu avec l'évêque s'ils pouvaient avoir dans la mission comme activité principale, on va dire, d'être visiteur de prison. D'autres aussi pour le service des funérailles, voilà. Donc le diacre peut exprimer aussi un souhait. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément pouvoir le réaliser tout de suite, mais ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre par rapport au service qu'il souhaite, quoi.
Vous êtes témoin de quoi avec vos maris diacres, hein? Et là, je vous interroge à chacune d'entre vous. D'un changement de vie au quotidien, d'une transformation après l'ordination, 6 ans, voire 7 ans après. Quel est un petit peu votre... et avec un peu de recul. Une parole de sagesse, une parole...
Moi, je trouve qu'il s'est adouci depuis qu'il est diacre. Il est plus à l'écoute et plus paisible dans ses réactions. Oui, il a pris il a acquis une plus de calme et de douceur. Oui.
Ah, donc c'est les conséquences, les fruits,
oui.
La fécondité aussi d'une vocation. Et pour vous, Christine, vous avez constaté aussi des changements dans ce quotidien.
Alors, le
quotidien du couple aussi,
oui.
Hein, n'oublions pas.
Le changement, en fait, le gros changement, ça s'est fait cette année. Donc, 6 ans après l'ordination, ça a été surtout le départ à la retraite de Patrick qui a permis que maintenant, il peut prendre complètement sa mission donnée par l'évêque. Il prend enfin le temps de la réaliser. Parce que quand on travaille toute la semaine et que c'est très compliqué d'avoir une mission en même temps. Et voilà. Et donc, enfin, il arrive à prendre le temps de s'occuper des gens, parce que c'était plutôt la coordination des diacres, être à l'écoute de ses frères diacres. Et il a enfin le temps de les appeler en journée, de prendre des nouvelles, et de ne plus faire que de l'administratif.
Là, vous soulevez aussi la période et le temps. Il y a le temps avant vie active et mission de diacre. Ça paraît un peu impossible ou très exigeant. Je soulève un peu ce problème aussi d'être diacre en activité professionnelle avec une épouse et puis parfois des enfants et des familles nombreuses. Est-ce que c'est réellement possible d'accomplir le plus parfaitement possible cette mission de diacre quand on est encore dans une activité professionnelle? Quel est votre constat, Hélène Gazot?
Je vais répondre que je pense que ça dépend justement de la profession aussi qu'exerce le diacre. J'ai une profession, bon, si je reprends l'exemple d'Alain, qu'il soit diacre dans l'ancien catholique, pouvait au contraire montrer un aboutissement, on va dire. Hein, il y avait, voilà, et pouvait exercer sa mission de diacre auprès des chefs d'établissement, en célébrant, en assistant dans les célébrations. Des personnes, et on en a bien sûr dans notre entourage, qui travaillent dans l'entreprise, qui ont des missions, voilà, c'est souvent beaucoup plus difficile. Mais ce que je constate, c'est que chaque fois, et notamment même au cours de la formation, les personnes qui travaillent avec un futur diacre sont attentives, même s'ils ne partagent pas notre foi, vont le voir, posent des questions, le sollicitent, quelquefois leur confient des choses, et finalement, il y a un véritable apostolat qui se fait dans le milieu professionnel.
Alors, pour ma part, c'était un peu particulier parce qu'ils travaillaient déjà pour l'Église. Mais le jour de l'ordination, effectivement, j'ai invité mes collègues à moi de travail. Et ça a permis, effectivement, de leur dire, ben voilà, mon mari va se faire ordonner. Et c'est vrai que suite à ça, il y a des personnes qui sont venues me voir vraiment parce que, ben voilà, ils disaient, ben oui, ben, c'est quoi, diacre, etc. Enfin, il est marié, il peut être marié, pas marié, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui, du coup, ont osé me poser des questions sur le Christ. Et pour le coup, c'est moi qui devenais témoin et pas mon mari, en fait. Il venait me voir moi et pas lui. Et ça, c'est vrai que c'est important. Donc voilà, par la suite, j'ai eu des décès de collègues, des choses comme ça. C'est vrai que les personnes venaient aussi nous voir parce qu'ils se disaient, ah, bah, on a une ouverture vers l'Église. Donc peut-être que les diacres sont, on dit souvent, ministres du seuil. Et bah, nous, les femmes, en fait, on est encore plus... On n'est pas au seuil, on est à l'extérieur. Mmh. Et on peut aussi rambler certaines personnes qui n'osent pas venir voir les diacres aussi.
Oui, alors c'est vrai qu'on a... On donne souvent des conseils. Alors après, c'est... moi, on fait appel à moi quelquefois dans mes activités de bénévolat. Mais plus pour... parce que j'ai acquis des connaissances... sur le côté pratique. Donc, c'est à la boutique de l'artisanat monastique. Et quand il y a une question de vêtements liturgiques, de linge, les gens savent que je suis au courant et que je peux les aider pour tout, faire leurs commandes ou...
Et est-ce que vous êtes approché, alors dans vos paroisses respectives, on peut dire toutes les paroisses dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'on vient spécifiquement, vous, femme de diacre parfois, est-ce qu'on vous approche pour être peut-être ce cœur qui écoute, cette oreille qui écoute, parce que vos époux sont avec cette mission bien spécifique, hein. Ils se donnent à l'Église, hein, et ils ont répondu à cette vocation. Claire?
Non, pas particulièrement, je n'ai pas ressenti beaucoup.
On ne vient pas vous trouver?
Non, on est venu trouver à l'école, je travaille dans une école.
Dites-nous tout.
J'ai une ancienne collègue qui m'avait demandé si mon mari pouvait baptiser sa petite fille, des choses comme ça. Il a marié son dernier fils là, il n'y a pas longtemps. Mais sinon, dans la paroisse, c'est régulièrement, on me dit, mais c'est toi la femme de Philippe le diacre? Oui, c'est moi.
Alors, puisque vous parlez de baptême, vous rappelez ce premier moment où votre époux, vos époux sont à l'autel, en fait, et la célébration aux côtés du prêtre, parfois aux côtés de l'évêque. Vous retrouvez seul sur le banc de l'église.
Oui, alors les premières fois, c'est quand, au moment des institutions, quand nos maris reçoivent une aube et partent dans le chœur. C'est vrai que c'est un petit moment de solitude parce qu'on se retrouve seul sur notre banc. Alors, c'est surtout pour celles qui ont toujours eu leur mari à côté d'elles. Après, on a une vraie fraternité. Donc, très souvent, quand il y a une admission, des institutions, une ordination, les épouses, enfin les diacres qui sont déjà ordonnés, ou même ceux qui sont en formation, assistent et viennent entourer ce couple. Et donc, les épouses de diacres sont bien autour de l'épouse qui va se retrouver, du coup, plus trop seule sur son banc, parce qu'on est là aussi grâce à notre fraternité.
Vous rappelez ces premiers moments où c'est le temps aussi pour le diacre hein, qui peut célébrer, vous l'avez souligné, des baptêmes, des mariages. Il y a le temps aussi de la prédication, de l'homélie, une homélie qui doit être mûrie, travaillée. Vous rappelez de ces premières homélies? Je vois que vous réagissez, vous n'avez pas oublié votre époux Alain Gazot, ce moment où c'est la première fois.
La première fois et surtout c'est la préparation de l'homélie. La préparation d'abord que Alain faisait, effectivement, qui d'ailleurs était très dans le temps. Et après, en famille, la lecture de l'homélie. Juste pour illustrer, on donnait une note.
Une note avec en les famille, enfants. Avec les enfants.
Avec les enfants, voilà.
Donc, Monsieur Alain Gazot, voilà, nous découvrons qu'il a été noté par sa propre famille.
Oui, homélies, oui. Bien sûr, sur le ton, voilà, de... Mais oui, on a pu partager effectivement en avant-première les homélies d'Alain, mais c'était lui qui les écrivait.
Il y a une exigence aussi dans ce temps aussi de prédication. Oui. C'est parti. Vous vous rappelez
c'était la première fois. Il a eu à célébrer un mariage une semaine après son ordination. Et il a passé une semaine sur son homélie à stresser. Et bon, 6 ans après, il ne stresse plus du tout.
Alors, d'où il nous arrivait à table de faire des jeux sur qu'est-ce qu'il faudrait dire sur le texte.
Vous n'avez pas noté votre mari?
Non, je n'ai pas noté mon mari.
Mais vous avez joué.
On a joué avec les enfants, effectivement. Qu'est-ce que ce texte dit? Donc, en fait, on a fait un partage d'évangile en famille. Ça nous est arrivé. Et des fois, c'est vrai que ça lui permet d'avoir des billes. Alors, des fois, on est là. Est-ce qu'il l'a dit, pas dit?
Alors, 6 ans, voire 7 ans après, votre époux, Christine, n'est plus appréhendée dans...
Maintenant, surtout, il a
l'idée
le temps.
De faire une homélie.
Voilà. Depuis deux mois, il a le temps de faire ses homélies. Et ce qui tombe bien, parce qu'on lui en demande de plus en plus, aussi bien pour les dimanches que pour les baptêmes et les mariages, ou les obsèques, il faut aussi préparer. Alors, ce n'est pas une homélie comme pour le dimanche, mais ça, quand même, demande du travail. Et donc, il me demande de relire ces homélies un petit peu avant. Et quelquefois, je corrige une tournure de phrase, ou je lui dis si j'ai tout compris, ou voilà, mais il faut toujours une première oreille.
Cette première oreille, c'est les femmes de diacre, certainement. C'est important pour vos époux d'être entendus, écoutés, quand il y a peut-être aussi des inquiétudes, voire des questionnements. Vous avez été confrontés, on ne va pas rentrer forcément dans des détails très précis, mais à des périodes un peu plus tumultueuses et où il pouvait y avoir un temps de doute ou de forte contrariété.
Oui, c'est arrivé, oui, plus d'une fois, où il avait besoin de soutien, en fait. Et donc, de pouvoir dire ce qui avait été difficile à vivre, de pouvoir décharger un petit peu ce qu'il avait sur le cœur.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la vocation, au fond, et je me tourne vers vous, Hélène Gazot, la vocation bien spécifique d'un couple, quand le couple et l'époux est diacre? Qu'est-ce qui est particulier? Qu'est-ce qui le différencie? Qu'est-ce qui différencie ce couple-là d'un couple, enfin, non missionné,
si
non candidat?
De différence, je pense qu'on a une grâce, ça c'est sûr. Je me rappelle que ce que j'essayais de faire par rapport à Alain, c'était d'être un facilitateur, vu son activité professionnelle, vu effectivement les homélies. D'essayer d'adapter notre emploi du temps en fonction de ses contraintes à lui et de ses engagements. Mais bon, c'était pas compliqué. Enfin, je veux dire, c'était... Mais peut-être une petite anecdote. Vous parliez du début de l'ordination. À notre époque, il n'y avait pas encore beaucoup de diacres. On était au siècle dernier, comme j'ai la coutume de dire. Et très souvent, à la sortie de la messe, on me disait « Alors, tu diras à ton mari ». C'était très gentil, ça m'a associé. Voilà. Mais tu diras à ton mari. Et voilà, telle ou telle chose. Mais voilà. Mais je, enfin, alors peut-être aussi parce que notre temps a été court, puisque Alain a été diacre 8 ans avant son accident. Et que, voilà, on a avancé pendant ces 8 ans, bien sûr. Mais avec une activité professionnelle très soutenue pour lui. Hein. Il était toujours directeur diocésain. J'étais chef d'établissement. Mais on avait cette richesse aussi de travailler dans un milieu qui nous permettait de vivre et de parler du diaconat, en fait.
Et ouais. De favoriser cette mission-là.
Et de la favoriser, la mission.
Alors, si parmi les auditeurs, auditrices, entendraient peut-être cette émission de Vivante Église, je souhaitais rassembler tout simplement des femmes autour de cette table, des femmes de diacres, voilà, pour un peu évoquer. On entend les diacres, on entend les évêques, on entend les prêtres, mais on vous entend parfois très peu dans la prise de parole. Donc, merci d'avoir eu cette audace, ce courage de venir prendre la parole. Merci à chacune. Je vais juste terminer cette émission en vous demandant, au fond, pour ceux et celles qui sentiraient peut-être, pourquoi pas, un appel à devenir candidat. On ne sait jamais, il y a des vocations parfois qui peuvent naître au cours de l'écoute aussi d'une émission. Quelles sont les joies profondes de cette vocation à laquelle vos époux ont répondu et vous avez suivi, puisque vous accompagnez vos époux. Et ça sera le mot de fin.
Je dirais que la joie première, c'est de servir le Christ avant tout, servir l'Église.
Oui, la joie première, c'est d'être au service. Les diacres, ce sont au service, mais nous, on reste nous-mêmes en tant que femmes, mais on est aussi au service du Christ.
De grandir dans la foi.
La même chose, absolument, tout à fait. Une grâce de pouvoir grandir dans la foi et de la partager.
Merci à toutes les quatre. Merci Hélène Gazot. Merci Claire Audier. Merci Emmanuel Combre. Et merci à Christine de Persin et à toutes les quatre. Bonne mission. Au revoir.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.